Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, je vous espère en pleine forme, ça y est, hein, les petits sont en vacances depuis hier soir pour 15 jours. Peut-être que vous êtes sur la route en train de partir, prendre l'air. On en parlera dans un instant dans le journal. Et puis à 7h moins le quart, on va parler d'une chouette initiative. C'est la nuit des châteaux ce soir, 3e édition. Visiter un château en soirée, c'est assez magique, c'est partout en France. Et c'est une belle idée pour ce début de vacances. Nous sommes le samedi 23 octobre, soyez les bienvenus. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici toute l'actu que l'on va développer dans cette première édition. Je vous le disais, les vacances de la Toussaint débutent. Du monde dans les gares et sur la route. Où partent les plus chanceux? Réponse à suivre. L'affaire Alec Baldwin, l'acteur s'exprime sur le drame pendant le tournage du western Rust. Comment expliquer le coup de feu mortel? Les informations de notre correspondant aux États-Unis. Le football, Saint-Etienne arrache le nul à la dernière minute face à Angers, 2-2. Nouvelle fronde des supporters hier soir. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui se court sur l'hippodrome de Saint-Cloud aujourd'hui. Puis l'interview de Philippe Legrand, une date, une histoire avec le chanteur Atef. 6h23, on va partir en balade avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur, des idées de visite en Eure-et-Loire. Et on va déguster de la Pella. La Pella dans les Alpes. Vous savez ce que c'est la Pella? Réponse dans 20 minutes. La tendance météo. Bonjour très chère Valérie Darmon. Comment allez-vous Valérie?
Eh bien je vais bien. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et ce sont des vacances qui démarrent bien ce premier week-end sous quelques nuages au nord. Un ciel tout à fait dégagé au sud et des températures tout juste de saison.
Météo complète bien sûr à la fin de ce journal. Alors vous allez prendre le train pour partir en vacances. Peut-être les conducteurs des TGV Atlantique sont en grève jusqu'à lundi, mais 8 trains sur 10 vont circuler. Pas trop de problèmes donc. Et à la gare Montparnasse à Paris, Yasmina Katou est allée à la rencontre de chanceux vacanciers.
Je pars en Bretagne avec ma famille à Saint-Brieuc. Ça permet de prendre un petit peu l'air marin et surtout les embruns, je pense.
C'est quoi le programme alors? La plage, j'imagine?
Oui, des petites balades sur la plage, puis après, voilà, manger des galettes bretonnes. Ça permettra de s'évader.
Vous allez à la Baule, du coup?
Oui, on va aller visiter des amis.
Et là, vous y allez pas seule, déjà? Vous êtes accompagnée?
Non, on est 15. 9 enfants, et le reste, les adultes.
Il va falloir les occuper sur place.
Oh bah, on a plein de choses à faire à la Baule. Il y a la plage, on va se promener en vélo. On va manger une raclette entre amis.
Rose, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances, tu penses, là, à Arcachon?
Je pourrais faire des jeux. S'il fait chaud, je vais aller à la plage. Se promener, rester à la maison, regarder des grands dessins animés pendant des jours de pluie. On pourrait faire plein de choses.
Voilà, plein de choses. Hein. Balade sur la plage et galette bretonne. Bonnes vacances à tous, si c'est le cas. Justement, Carole Ferry, les professionnels du tourisme ont le sourire pour ces vacances.
Les réservations sont globalement très bonnes, notamment en France. Alors pour les destinations phares, la Bretagne apparaît en tête chez quasiment tous les professionnels. Après, tout dépend des plateformes. C'est le Var qui arrive en seconde position chez Abritel, le Lot et Garonne pour Airbnb. Les Gîtes de France affichent un taux d'occupation de 41% pour ces vacances de la Toussaint. C'est 6 points de plus que l'an dernier et 10 points de plus qu'en 2019. De très bons résultats donc. À noter que de nombreux campings prolongent leur ouverture et ça marche. Le groupe Cibloo, leader européen de l'hôtellerie de plein air, enregistre une hausse des réservations de 23% pour ses vacances par rapport à l'an dernier. Voilà pour la France, mais certains s'échappent un peu plus loin. En tête des grandes villes européennes que nous allons le plus visiter, Lisbonne, Barcelone et Rome. Autres destinations phares, la Grèce et les Baléares.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. François Hollande était hier soir à Bordeaux pour dédicacer son nouveau livre « Affronter ». Il a critiqué la prime de 100 euros pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Il faut revaloriser les salaires, a-t-il dit au micro européen de Stéphane Place.
C'est jamais inutile quand il y a un chèque qui est adressé à 38 millions de Français qui viendra s'en plaindre. Mais ce n'est pas du tout ce qui peut être fait dans le long terme. Nous allons vivre pendant longtemps avec le prix de l'énergie élevé et une inflation qui revient. Et donc c'est du côté des salaires, des revenus, qu'il faut faire porter maintenant la pression et donc faire en sorte que les entreprises puissent prendre leur part de l'amélioration de la situation de leurs salariés, soit par les forfaits kilométriques, soit par des augmentations de salaire selon les situations. Mais quand même, oublier les entreprises sur une question du pouvoir d'achat, c'est ne pas comprendre qu'il va y avoir nécessité, face à une inflation qui reprend, de réajuster progressivement les revenus et qui suppose maintenant les négociations puissent s'ouvrir sur les salaires et sûrement qu'il puisse être donné un coup de pouce au SMIC parce que c'est quand même les bas salaires qui sont les plus concernés par cette hausse de l'ensemble des produits.
L'ancien chef de l'État François Hollande. Anne Hidalgo, elle sera officiellement investie par le PS, candidate à la présidentielle cet après-midi à Lille. Elle espère avec cette convention relancer sa campagne qui piétine. Reportage dans le journal de 6h30. En bref, Rémi Daillé, figure des milieux complotistes, a été mis en examen pour des soupçons de projet d'attentat contre une loge maçonnique de l'Est de la France. Il est déjà incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia. Nouvel échange Biden-Macron par téléphone pour aplanir les différends entre les deux pays après la crise des sous-marins australiens. La vice-présidente américaine Kamala Harris viendra en France les 11 et 12 novembre prochain. Les suites à présent de l'affaire Alec Baldwin. L'acteur se dit dévasté 2 jours après avoir tué, vraisemblablement de manière accidentelle, une directrice de la photographie en plein tournage du western Rust. Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis, des premiers éléments de l'enquête ont été dévoilés cette nuit.
Oui, avec une déclaration sous serment d'un assistant réalisateur, il explique avoir saisi l'une des 3 armes disposées sur un chariot par l'armurier du film avant de la tendre à Alec Baldwin en précisant que cette arme n'était pas chargée. Dans ce même témoignage, l'assistant assure qu'il ne savait pas que des balles réelles se trouvaient à l'intérieur. Pour le moment, on ne connaît pas la nature du projectile qui a tué Alina Hutchins. Touchée à la poitrine, elle était assise juste devant le réalisateur, Joel Souza, blessé lui à l'épaule. Les vêtements d'Alec Baldwin ont été récupérés, visiblement tachés de sang, ce qui souligne sa proximité avec les victimes au moment du drame. Ordinateur, téléphone portable, images déjà tournées, les enquêteurs ont saisi tout le matériel présent sur la scène pour tenter de comprendre comment une arme chargée a pu se retrouver sur le plateau. Autre information, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Plusieurs personnes ont quitté le tournage en début de semaine, se plaignant de conditions de travail difficiles pour ce western, dont Alec Baldwin est également le producteur.
Les informations d'Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Le sport avec ce match sous haute tension hier soir, match nul de partout entre Saint-Etienne et Angers dans une rencontre qui a bien failli ne jamais démarrer en raison de graves débordements. Maxime Sauch.
C'était la première fois que je voyais autant de fumigènes sur un terrain.
Les banderoles d'avant-match ont laissé place à des fumigènes jetés des virages nord et sud jusque sur la pelouse. Les ultras stéphanois ont mené hier soir une action coordonnée à moins de 5 minutes du coup d'envoi de la rencontre, ce qui a provoqué d'importants dégâts, l'intervention de dizaines de CRS et un match retardé de près d'une heure. Pour beaucoup de supporters hier soir, cette réaction des ultras était prévisible dans un club à la situation sportive catastrophique cette saison.
C'est un peu logique avec le début de saison que Saint-Étienne est en train de faire.
C'est léger par rapport à ce qu'on pensait. Là, il n'y a pas d'envahissement de terrain, la fin du match se finit bien. Mais c'est vrai que ça reste que des lancers de fumigènes, quoi.
Les fumigènes, ils marquent leur mécontentement, je peux le comprendre, mais le trou dans le filet, ça ne servait à rien, si ce n'est à perdre du temps et on va dire à faire prendre des amendes au club pour pas grand-chose, quoi.
Dans la semaine, ils avaient porté des banderoles et puis ils avaient prévenu qu'ils allaient réagir comme ça. On a l'impression que dans ce club, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien.
Un public qui a poussé la SSE à arracher le point du match nul en toute fin de rencontre. Le club reste lanterne rouge et devrait écoper de sévères sanctions après les scènes de chaos d'hier soir.
À la suite de cette 11e journée de Ligue 1 avec Nantes-Clermont à 17h et Lille-Brest à 21h à vivre bien sûr en direct sur Europe 1. C'est le coup d'envoi de la saison de ski alpin, Coupe du Monde qui débute en Autriche ce week-end. Géant femme aujourd'hui et à 32 ans, et bien celle qui a été double championne du monde fait figure de chef de file de l'équipe de France féminine. Il s'agit bien sûr de Tessa Worley.
C'est une responsabilité qui me rend assez fière. Les filles qui sont en place aujourd'hui en équipe de France sont prometteuses. Elles ont déjà montré de belles choses. Elles ont, pour certaines, déjà concrétisé. Maintenant, l'idéal, ça serait vraiment d'avoir une densité de groupe un petit peu plus importante. Et puis, ouais, sur une année olympique, ça serait l'idéal que les filles qui sont en devenir arrivent à vraiment faire leur place.
Tessa Worley avec Axel. Mais il nous reste à voir la météo. Alors, quel temps pour ce premier jour des vacances de la Toussaint, Valérie Darmon? C'est du beau dans le sud, hein?
Ah oui, dans le sud, le soleil qui va dominer dès son lever depuis les Charentes et le Lyonnais jusque dans le sud-est et dans le sud-ouest avec absolument aucun bémol. Pour une fois, rien à signaler. Un tout petit peu de Mistral et de la Tramontane ce matin sur le pourtour méditerranéen.
Dans le nord, Valérie, c'est moins bien ?
Oui, un petit peu avec du Val-de-Saône à la frontière belge, la journée qui commence sous la grisaille. Dès la mi-journée, ces éclaircies qui se développent et c'est un ciel variable qui va donc s'installer pour tout l'après-midi sur la pointe bretonne et nuages qui sont un petit peu plus nombreux mais qui ne vont pas donner de pluie du tout. On n'a pas de pluie du tout sur toute la France, en tout cas pour ce week-end.
On regarde les températures maintenant.
Alors au lever du jour, entre 15 à Nice et moins 2 à Aurillac, 14 à Perpignan, 10 à Toulon, 9 à Toulouse, 8 à Rennes, 7 à Alençon et Montpellier, 5 à Rouen, 4 à Brest et puis les maximales qui vont afficher 10 à 19 du nord au sud jusqu'à 24 pour les chanceux du sud-est.
Le soleil de cette matinale, Valérie Darmon. À tout à l'heure Valérie. Allez, à suivre sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de Saint-Cloud aujourd'hui. Puis Philippe Legrand qui reçoit le chanteur Atef. À tout de suite sur Europe 1. Bon réveil, merci d'être là.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h12, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que va se courir ce quintet. Un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 3 à 7 ans sur la courte distance de 1400 mètres. Trois priorités au départ de ce quintet, les numéros 4, Be My Day, 3, Mon ami l'Écossais et 2, Caliste, classés dans cet ordre aux trois premières places d'un handicap similaire le 3 octobre à Longchamp sur la distance qui nous intéresse et par terrain lourd, le paramètre indispensable pour réussir cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ces trois-là sont donc indissociables. Ensuite, je vous recommande les numéros 7, Shielding, toujours très performant à cette époque de l'année, 12, Mike Kurkum et 10, Torpen, qui viennent de conclure tous les deux deuxième d'un quintet et qui n'ont qu'à répéter cette performance pour conclure une nouvelle fois dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 1, French Comté et 6, Dantès, ont eux aussi des arguments pour disputer les premières places de ce quintet. Mon pronostic, 4, 3, 2, 7, 12, 10, As et 6.
Merci beaucoup Thierry Léger. Voilà, tous les samedis matins, un invité des archives, on regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, le chanteur Atef. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 2015 sur la plage abandonnée. Bonjour Atef.
Bonjour Philippe.
Chanteur, auteur, compositeur, on vous a surnommé la voix de l'ange. Un compliment pour saluer votre timbre vocal si particulier entre opéra et rock. Atef, votre première grande scène s'appelle The Voice. Vous chantez, Garou se met à pleurer, le standard de l'émission est pris d'assaut. Près de 10 millions de téléspectateurs vous applaudissent. Plus tard, votre album Perfect Stranger montre votre maîtrise de la langue de Shakespeare. Il faut avouer qu'un jour à Londres, Elton John vous demande de venir chanter toute une soirée, persuadé que vous êtes un chanteur anglais. Aujourd'hui, vous êtes l'une des vedettes sur TF1 de The Voice All Star, un nouveau défi pour l'artiste que vous êtes, derrière lequel se cache un philosophe, un intellectuel qui enseigne. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur ce 2 septembre 2015. Le corps du petit Elan échoué sur la plage des migrants va devenir un symbole. Jérôme Ivanichenko en rappelle les faits sur Europe 1.
Sur ce cliché absolument bouleversant, on peut apercevoir son visage léché par les vagues. La scène se déroule à Bodrum, une station balnéaire très touristique située au sud-ouest de la Turquie. C'est de cette ville côtière que deux embarcations sont parties mardi soir. À bord de ces bateaux, une trentaine de réfugiés syriens, parmi eux Eylan Kurdi. Il est âgé de 3 ans. Avec sa famille, il fuit la guerre en Syrie pour rallier l'île de Kos en Grèce, porte d'entrée de l'Union européenne. Dans la nuit de mardi à mercredi, son embarcation a fait naufrage et le petit Eylan est mort, noyé. C'est son corps, rejeté par les flots, qui apparaît sur cette photo littéralement insoutenable et qui devient ce matin un symbole.
Un symbole, hein, c'est ce que nous rappelle Jérôme Ivanichenko. Sur Europe 1, dans ces faits terribles, la photo a fait le tour du monde. On l'a en tête, n'est-ce pas, Atef ? Vous avez choisi de revenir sur, au fond, derrière cette date, sur ce mouvement des migrants, sur ce monde des migrations avec cet enfant et d'autres sur ces plages où, malheureusement, viennent s'échouer des corps venus d'ailleurs. Pourquoi ce choix ?
Ce ne sont pas que des corps qui viennent s'échouer aussi. C'est un peu désespoir et aussi une part d'humanité qui vient s'échouer. Parce que c'est pas rien, quoi, de lâcher son pays, lâcher sa famille et dire « je vais aller ailleurs, même si je risque ma vie et puis la perdre. Donc oui, j'ai choisi ce sujet qui me touche énormément. Et pendant
vous avez
des
écrit
années...
Atef sur ce thème. Hein, on y reviendra tout à l'heure dans votre, entre autres, dans votre dernier album, Le Soleil se lève. Ça veut tout dire. Et c'est pas le chanteur ou l'homme engagé qui s'exprime là. Hein, c'est un homme concerné par son époque.
Exactement. Et puis, par exemple, si vous dites j'ai mal, je sais pas moi, au foie, eh bien, vous dites pas j'ai mal à mon foie. Vous dites j'ai mal. C'est tout le monde qui est tous les autres organes sont concernés si un organe est en peine. Et de la même manière, ce qui peut se passer sur les côtes de Lampedusa ou de Grèce ou d'ailleurs, ça nous concerne tous. Comment on pourrait voir les choses autrement que comme ça?
Vous vous souvenez où vous étiez à Tef ce 2 septembre 2015, lorsque le corps du petit Elan a été retrouvé, que l'image a fait le tour du monde, son corps inanimé, chaussures noires, t-shirt rouge, pantalon court?
Je ne me souviens pas d'où j'étais, mais l'image, elle a traversé le cœur et l'âme de la planète.
Elle a traversé l'âme et vous le disiez, hein, et le cœur de la planète. Dans vos textes sont au fond inspirés aussi par l'actualité, par ces actualités. Qu'est-ce que vous voulez d'abord mettre en avant quand on parle de ce phénomène des migrations?
Voilà, c'est plus général ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que il me manque l'humanisme dans le débat, dans les débats actuels, dans la période dans laquelle on vit. On parle de problèmes et on oublie, j'ai l'impression, de mettre les choses à l'endroit.
Pensez à l'homme d'abord.
Ben oui, pensez à l'être humain, quoi. Et après, le reste. L'organisation vient après les choses les plus importantes.
Je disais, Atef, en vous présentant, au fond, il y a plusieurs Atef en vous. Hein. Il y a l'homme, le chanteur, la voix de l'ange, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a souligné cet aspect-là, mais il y a aussi un autre aspect qu'on connaît moins chez vous. Vous connaissez les textes, vous les étudiez, vous les travaillez, vous les transmettez, vous avez ce côté philosophe, intellectuel. Comment est-ce que, au fond, on oublie le chanteur un instant, comment est-ce que le philosophe regarde justement cette actualité-là un peu sombre, je reviens sur votre date, celle du 2 septembre 2015.
Alors, je ne me mets pas dans la case des philosophes. Les philosophes sont des gens qui ont étudié...
Oui, alors vous êtes un intellectuel et vous étudiez les textes, je le sais. Le public ne le sait pas. Vous êtes trop modeste. Et donc, alors, je reviens sur la question. Comment vous abordez ce sujet quand on oublie le chanteur que connaît le public?
Eh bien, à chaque fois, j'essaie de l'aborder de 4 manières différentes pour être équilibré. J'essaye à chaque fois de voir les choses avec mes sens, mes 5 sens, donc ce que mes yeux, mes oreilles entendent. Quelquefois, le langage non verbal, par exemple, quand quelqu'un s'exprime. Ensuite, il y a les sentiments. C'est aussi une manière d'acquérir la connaissance. Il y a aussi la raison. Il n'y a pas que la raison, mais c'est très important aussi. Et enfin, il y a l'intuition. C'est une espèce de... C'est un concentré des 3 en hyper rapide. Voilà comment j'aborde les choses. Et alors, mon intuition, souvent, me donne de bonnes inspirations. Mais ce sont les 3 autres fonctions qui me permettent de corriger ou de valider ce que j'ai ressenti.
Vous avez étudié l'histoire, vous avez étudié l'histoire des religions aussi. Le public ne le sait pas, je me permets de le dire. C'est pour ça aussi que je disais, le philosophe et l'intellectuel qui est en vous, qui sont en vous, c'est essentiel quand on veut vous aborder et comprendre aussi l'homme sensible que vous êtes à Tef. Il y a cette date, il y a votre regard sur l'époque, c'est ce que nous disions. Et puis, il y a Le Soleil se lève, un beau titre, une poésie et un refrain. C'est aussi un album, votre nouvel album. Vous qui avez été rappelé par The Voice All Star sur TF1 et vous avez continué votre parcours. Il faut rappeler que plus de 10 millions de téléspectateurs ont été devant vous à vous applaudir et vous regarder. Le Soleil se lève, c'est la poursuite de l'aventure du chanteur que vous êtes.
Et oui, parce que de participer à ces émissions, c'est un éclairage. Et cet éclairage, il est, et on participe à un jeu, bien sûr, il y a le jeu, il y a l'entertainment, mais c'est aussi une manière pour moi d'avoir un éclairage sur ce que j'ai à dire.
Le soleil se lève a été composé sur le feu de l'actualité, dans l'émotion, hein, c'est ce qu'on a compris. Et puis, il y a d'autres titres.
Oui.
À découvrir.
Oui, il y aura d'autres titres. Il y a Il s'aime, que j'ai interprété à The Voice All-Star cette année. Une reprise de Daniel Lavoie, qu'il avait écrite dans les années 80, lorsqu'il avait vu un reportage sur une jeune Palestinienne et un jeune Israélien qui étaient amoureux. Laissez-les s'aimer.
Laissez-les s'aimer. On va se dire au revoir avec un autre titre aussi qui fait partie de Le soleil se lève. Marseille, que vous chantez, c'est aussi quelque part votre ville. Avec vous, Atef, on est revenu sur ce 2 septembre 2015, votre regard d'artiste sur l'actualité. À bientôt.
À bientôt et merci.
Belle et fière Marseille, un rire du soir, espoir. Marseille, 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 Marseille.
Hommage à la cité phocéenne, Marseille, Atef, l'invité ce matin de Philippe Legrand. Allez, 6h23, restez avec nous. Dans un instant, on part en balade. Plein d'idées de sortie, notamment en Eure-et-Loire. Et puis, on va déguster un plat ancestral des Alpes, la Pella. Ça tient au corps, vous allez voir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du samedi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux, mesdames.
Bonjour.
Allez-vous bien?
Mais oui,
on est avec vous. Allez, on prend la direction tout de suite de l'Eure-et-Loire, une destination que vous nous conseillez particulièrement pendant ces vacances de la Toussaint qui débutent.
Exactement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments pour faire à la fois une bonne échappée verte, avoir un bon shoot de patrimoine. On part dans la vallée royale de l'Eure, on est à 20 km seulement de Chartres.
D'accord.
C'était le spot en vue du 16e et du 17e siècle, très prisé par François Ier, Henri II, Madame de Maintenon. Et Louis XIV, évidemment, Diane de Poitiers. Mmh. Alors, qui dit Diane de Poitiers, dit château d'Annette, ou d'Annette. Voilà, moi je préfère dire Danette.
D'accord,
mais bon, voilà.
Okay.
Et la déclaration d'amour, c'est la déclaration d'amour d'Henri II à Diane de Poitiers. Il a fait construire pour elle, ouais, par Philippe Delorme, en un temps record et surtout avec les plus grands artistes de la Renaissance. Et ça, c'est un exploit. Et Annette, il y a plein de petites perles. Il y a un damier en trompe-l'œil. Il y a une horloge assez curieuse. Je vous dis rien. Vous allez la découvrir, c'est
d'accord,
le but. Puis une fontaine qui représente un des premiers nus féminins de la Renaissance. Et d'ailleurs, la légende dit que Diane de Poitiers se baignait nue tous les jours de l'année dans l'étang.
Bon,
voilà.
D'autres châteaux, sites à visiter dans le coin, dans cette vallée royale.
Bah oui, alors rien que sur Annette, il y a le centre d'interprétation de la Renaissance.
On y est.
Pour mieux comprendre cette période à travers des grands personnages, des jeux tactiles, des spectacles à 360 degrés et puis des expériences immersives, ouais, qui vont vous replonger dans les grandes fêtes de la cour, là on y est, ou même la journée type d'un roi. Deux autres stops, la chapelle royale de Dreux, qui est la nécropole de la famille Bourbon-Orléans. Alors je vous vois tout de suite, vous allez me dire c'est un petit peu glauque, c'est triste. Et ben pas du tout, parce que les 35 tombeaux sont absolument magnifiques, sculptés. Donc ça c'est à voir. Et puis dernier stop, le château de Maintenon. Mais ça je vous en reparlerai plus en détail au moment du fabuleux Noël qui vaut le déplacement.
C'est teaser.
C'est bon hein.
On n'est pas loin de Chartres, ça veut dire qu'on peut quand même aller faire un tour à la cathédrale de Chartres.
Bah, oui, évidemment, incontournable.
Magnifique.
Allez, quelques chiffres, ça va vous donner le tournis. 176 vitraux, 2600 mètres carrés, 5000 personnages et un vitrail emblématique, Notre-Dame de la Belle Verrière. Ouais. Elle fait 7,50 m. Elle représente la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus sur ses genoux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est habillée d'un manteau bleu, très clair, beaucoup plus lumineux que les autres vitraux. Et en fait, c'est le fameux bleu de Chartres. C'était le cobalt qui est importé de Russie.
Une petite adresse, allez, on prend note là.
Le grand monarque à Chartres, une institution dans un ancien relais de poste. On y déguste d'ailleurs un très bon pâté de Chartres au restaurant gastronomique. Et puis c'est le spot vraiment idéal à faire pendant Chartres en lumière qui continue jusqu'à fin décembre.
Voilà, idée pour ces vacances de la Toussaint qui débute. Marion Sauveur, avec vous à partir dans les Alpes.
Et oui, tout le week-end se tient à Megève, Tokissime, le festival de la cuisine de montagne. Et vous pourrez assister à des conférences, déguster des plats réalisés à la flamme. Encourager des participants à des concours. Demain, il faudra décerner le titre de la meilleure fondue. Ça, c'est côté chef. Ouais. Et aujourd'hui, les amateurs de Pella vont s'affronter.
De Pella. C'est quoi, hein?
Eh ben, c'est l'ancêtre de la tartiflette. Ah, c'est le chef 3 étoiles, René Meilleur, qui est également président du Conservatoire des recettes de montagne, qui nous raconte ce qu'est la Pella.
C'est un plat qui se faisait dans la poêle, dans la cheminée, bien sûr, ou sur l'âtre. À l'époque, on mettait le gras de jambon à rissoler un peu et ensuite on mettait sauter nos pommes de terre avec, quelques oignons quand on en avait, et puis le demi-reblochon qui est l'élément principal, hein, qui était posé dessus et qu'on mangeait à la sortie de la poêle. Hein. C'est les poêles à grand manche et on vidait dans une assiette et chacun mangeait dans la même assiette. Hein.
Le plat familial par excellence. Est-ce que vous avez trouvé la différence avec la tartiflette ou pas?
Ben non.
Alors ça, ce sont les pommes de terre. Dans la tartiflette, elles sont cuites à l'eau avant d'être coupées en rondelles et épluchées. Je vous laisse une recette de tartiflette sur europe1.fr. Et avec la Pella, on s'embête pas, on met tout dans le plat, on n'épluche rien, ça va plus vite.
Ah bah je prends alors.
Elle date de quand cette recette?
De bien longtemps, liée à l'histoire du reblochon. Les paysans en produisaient déjà au XIIIe siècle, dans le massif donc des Aravis. Ils mangeaient cette Pella à leur retour du travail dans les champs. Une recette avec les produits du terroir et donc vite fait. La tartiflette est un petit peu plus populaire que la Pella aujourd'hui. On retrouve cette tartiflette même dans les restaurants gastronomiques comme chez les meilleurs. René et son fils Maxime proposent la tartiflette en mise en bouche. Elle est revisitée sous forme de mousse avec des petits oignons vinaigrés passés sous le grill minute. Ça fait comme un petit soufflet.
Ça donne envie.
C'est à Saint-Martin-de-Belleville, une très belle adresse, un restaurant 3 étoiles, La Bouite. Et si vous avez d'ailleurs une recette de montagne de famille, n'hésitez pas à contacter René Meilleur puisqu'il les collecte. Et aujourd'hui, il en a recensé une centaine.
Bon, écoutez, voilà. Bon appétit, bon régime, c'est le cas.
Et manger de la tartiflette, tout le week-end.
Manger de la tartiflette, tout est sur europe1.fr. Je vous souhaite un bon samedi, mesdames. On se dit demain.
À demain.
À demain. À demain.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Merci d'écouter Europe 1. Bon réveil, bon samedi, toute l'info à 6h30 avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. D'ici quelques heures, Anne Hidalgo sera officiellement intronisée par le Parti Socialiste. Si sa campagne patine, ses soutiens restent mobilisés.
En Normandie, Éric Zemmour et La République En Marche s'affrontent dans la même commune au même moment.
Comme tous les samedis, la photo de Paris Match juste après ce journal. Retour ce matin à Marseille, à la découverte des caïds de la Castellane. Et puis votre invité à 7h moins le quart, Thierry, c'est Romain Delhomme. Il va nous expliquer comment vivre la vie de château. 200 bâtisses ouvrent leurs portes au public ce soir.
Et puis la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Beau, sec, frais, avec des valeurs entre 12 à Belfort et 23 à Marseille cet après-midi et ce matin entre 0 à Clermont-Ferrand et 15 degrés à Nice.
Allez, le détail dans 8 minutes. Se lancer ou se relancer, Anne Hidalgo est à Lille aujourd'hui pour être investie.
De maire de Paris, elle deviendra aussi cet après-midi candidate socialiste à l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, la candidature patine avec 5% d'intention de vote au premier tour. Et pourtant, les militants socialistes du Nord veulent y croire. Lionel Gougelot.
Dans la ville de Martine-Aubry, ils ont massivement voté en faveur de la candidature d'Anne Hidalgo et les militants socialistes comme Margot sont convaincus du nouveau souffle que cette convention d'investiture va apporter à leur candidate.
Et je pense que les Français comprendront qu'elle n'est pas que Anne Hidalgo, maire de Paris, mais qu'elle a un vrai projet qui abordera le pouvoir d'achat, la question des salaires, de la santé, la question de l'école, le quotidien concret des Français aujourd'hui.
Et malgré les 5% d'intention de vote, pas question pour Baptiste de baisser pavillon avant la bataille.
Je souhaite qu'on cesse de croire
que c'est déjà perdu et qu'on arrête de se battre pour avoir la meilleure place dans le cimetière. Non, l'enjeu, c'est plutôt de dire que nous sommes au combat, que nous pouvons gagner cette élection présidentielle à la condition que nous sommes fidèles à ce que nous sommes.
D'ailleurs, Rémi, responsable des jeunes socialistes, n'attend qu'une chose, entamer vraiment la campagne de terrain.
On a des choses à dire aux Françaises et aux Français. On va être sur le terrain, on va aller à la rencontre de toutes et tous, sur les marchés, dans les rues, à la sortie des universités, par exemple, pour les jeunes également, pour faire passer nos messages, pour aussi discuter, échanger et donc convaincre, redonner espoir.
En espérant que la candidate saura convaincre les sceptiques, à commencer par ceux au sein de sa propre famille. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et ce matin, justement, ce sondage dans les colonnes du Parisien nous apprend que l'union de la gauche, bien ce n'est pas vraiment pour demain. 66% des sympathisants n'y croient même pas. En tout cas, si c'est le cas, Jean-Luc Mélenchon serait le mieux placé pour incarner la gauche. 25% des personnes interrogées le pensent, en tout cas 15% pour Anne Hidalgo, 14% pour Yannick Jadot.
Éric Zemmour, lui, poursuit son tour de France. Il était à Rouen hier, direction Deauville à présent.
Oui, juste à côté, à Touques, dans le Calvados, pour une séance de dédicace dans une église. Et Jacques Serret, le polémiste, toujours pas candidat, ne sera pas seul.
Oui, La République En Marche envoie l'une de ses porte-paroles dans la même commune, au même moment. La presse était prévenue que Prisca Thévenot ferait une opération de boitage, autrement dit de tractage dans les boîtes aux lettres, cet après-midi à Touques. Touques, juste à côté de Deauville, c'est un peu plus de 3700 habitants. Peu de place au hasard sur le fait que le parti présidentiel ait dépêché tout spécialement l'une de ses représentantes, manière comme une autre de montrer qu'il ne compte pas laisser le champ libre à Éric Zemmour. Nous sommes partout sur le territoire, c'est lui qui nous suit, se défend ironiquement un membre de La République En Marche. Pas sûr cependant qu'Éric Zemmour et Prisca Thévenot se croisent. L'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot. Sera en séance de dédicace et pas n'importe où. Il signera des autographes dans une église, l'église Saint-Pierre de Touques. Voilà pour le symbole du putatif candidat, lui qui n'a de cesse de rappeler les racines chrétiennes de la France. Alors il s'agit d'une église désacralisée qui accueille habituellement des expositions et des concerts, mais une église tout de même. C'est pourquoi, pour éviter que la séance de dédicace ne se transforme en meeting politique, toutes les chaises qui se trouvaient dans l'édifice ont été retirées.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Éric Zemmour qui n'a aucune chance d'être au deuxième tour. C'est Marine Le Pen qui le dit. La candidate du Rassemblement National était à Bruxelles hier.
Gilets jaunes anti-pass sanitaire ce samedi sera encore scruté par l'exécutif, bien sûr.
Oui, les aides annoncées par Jean Castex auront-elles convaincu? Et le pass sanitaire jusqu'en juillet, comment sera-t-il accepté? En tout cas, 60 appels à se rassembler ont été détectés sur les réseaux sociaux. Les Gilets jaunes notamment réclament la reprise des ronds-points en réaction à la hausse des prix du carburant. Et à propos du pass sanitaire, j'ajoute qu'Olivier Véran estime que le moment de s'en passer n'est pas arrivé. Le ministre de la Santé qui a noté une petite poussée de l'épidémie, mais pas de vague.
C'était il y a 6 ans, jour pour jour, l'accident de car de Puisseguin coûtait la vie à 43 personnes ennemies.
Oui, des retraités en excursion pour la plupart. Et malgré le drame, la justice a décidé hier de rendre un non-lieu. Aucune mise en examen n'a été prononcée. Le juge d'instruction a donc rendu une ordonnance, mais le parquet a tout de suite fait appel. Écoutez la déception de Michel Vigier, il est président du collectif des victimes.
Pour nous, on n'a pas l'arcoise de la mort des 43 personnes. Bien sûr, il y a le choc, mais si on écoute les rescapés, s'il n'y avait eu que le choc, il n'y avait pas, pour ainsi dire, de victimes. Par contre, les victimes, elles viennent du feu. Du feu qui s'est déclaré à la vitesse grand V, et c'est la cause du feu qui nous intéressait, qui n'est pas connue. Et voilà ce qui fait que les gens sont quand même assez déçus. Et puis l'autre déception aussi, c'est que on voulait à notre niveau essayer de faire évoluer toutes ces matières inflammables, etc., faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire. Voilà.
Le président du collectif des victimes de l'accident de car, joint par Élise Dangean, et toute la journée, les proches des victimes se recueilleront à Puisseguin.
Il flotte comme un air de vacances ce matin.
Oui, celle de la Toussaint. Et finalement, les prévisions de trafic sont bien meilleures que prévues, malgré la grève lancée par 3 syndicats hier. La SNCF annonce que 8 TGV Atlantique sur 10 seront en circulation. Le comédien américain Alec Baldwin se dit dévasté. C'est toujours le mystère autour de l'accident sur le tournage de son film. L'acteur qui a tué par balle la directrice de photo et blessé hier un réalisateur.
Alors, si vous aimez à présent la musique de Coldplay, il est l'heure de réserver vos billets.
Oui, le groupe part en tournée et une 3e date au Stade de France a même été programmée parce que depuis 25 ans, le succès du groupe ne se dément pas. Naïma Benchemane.
Higher Power, toujours plus pour Coldplay, le groupe anglais aux 100 millions de disques vendus.
Avec leur 9e album, les Britanniques surprennent et innovent. Le lancement de Music of Sphere s'est fait en direct de l'espace avec l'astronaute Thomas Pesquet.
Ah, salut Thomas.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Thank you, brother. See you later. Take care.
Fantaisiste, audacieux, 25 ans qu'il se renouvelle. Cette fois, il s'associe avec BTS, les stars de la pop coréenne.
J'ai juste pensé à créer un univers sympa.
It's fun.
C'est fun de créer de nouveaux endroits et de nouvelles créatures.
Creatures.
Ça te donne un sentiment de liberté. On est vieux, ils sont jeunes. On est des vieux rockers et eux, ce sont de beaux jeunes gens sexy.
La place de l'homme dans l'univers, le nouvel engagement de Coldplay, bien familier des grandes causes, plutôt terrestre, jusqu'ici.
Coldplay au Stade de France et les billets sont en vente pour le 19 juillet prochain.
Vous y serez ou pas les Naïcs?
Pas du tout, je serai plutôt au match de foot moi, c'est plus mon truc.
Justement, les sports, c'est pour ça. Avec un match houleux encore hier à Saint-Etienne.
Oui, avec un coup d'envoi retardé d'une heure à cause d'incidents provoqués par des groupes d'ultra stéphanois qui ont ciblé les joueurs, la direction du club, l'entraîneur Claude Puel. Au final, c'est un match nul 2-2 face à Angers et des Verts toujours lanterne rouge de la Ligue 1 après 11 journées. Les matchs du jour, Nantes-Clermont à 17h et Lille-Brest 21h. Des Brestois qui n'ont toujours pas gagné cette saison.
Et ce sera bien sûr à suivre en intégralité sur Europe 1 avec Lionel Rousseau. Merci les Naïcs Monnier qui revient bien sûr à 9h pour vous informer. La météo à présent. Alors Valérie Darmon, c'est important, c'est le premier jour des vacances scolaires. C'est une belle journée d'automne.
Et oui, et Brest qui va être à peine sous les nuages aujourd'hui, un petit peu à l'image de la France pour ce premier jour de vacances. Donc plus de nuages de la Bretagne et de la Normandie et Hauts-de-France. Passer les bancs de brume ou de nuages bas du matin, bien sûr. Ensuite, les éclaircies vont apparaître. Des Pays de la Loire et du centre-Val de Loire au bassin parisien, on a quelques bancs de brouillard et quelques nuages qui sont présents ce matin dans certaines plaines et dans certaines vallées. Puis le soleil, là aussi, va se généraliser. Dans le Grand Est, il faut attendre la mi-journée pour retrouver les éclaircies, mais il fait très froid ce matin, entre 0 et 5 degrés. La campagne est un petit peu blanche. De la Bourgogne-Franche-Comté à Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie-Pacap, donc toute la moitié sud, une grosse moitié sud. Oui. Le soleil qui va s'imposer rapidement après la dissipation des quelques bancs de brume rares de ce matin.
Bon, les températures, elles sont fraîches, un peu fraîches.
Elles sont fraîches, ouais. Même cet après-midi, entre 12 à Saint-Étienne et 23 à Marseille, 14 annoncés à Saint-Brieuc et Besançon, 15 degrés à Montluçon, à Aurillac et à Bourges, 16 degrés à Paris, à Valence, à Évreux, 17 à Angoulême et Périgueux, 19 à Gap et à Carcassonne et 21 à Nice et Perpignan.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Allez à suivre la photo de Paris Match avec un reportage dingue, vous allez voir, à un mois dans les cités de Marseille. Et puis, mon invité à 7h moins le quart, l'initiateur de la nuit des châteaux, c'est ce soir, c'est partout en France, vous allez voir, c'est assez passionnant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Comme tous les samedis matins, la photo de Paris Match avec Caroline Mangès, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire. Bonjour Caroline.
Bonjour Thierry.
Alors on va s'arrêter page 44-45, j'ai trouvé l'enquête passionnante, c'est une photo de Marseille depuis la cité de la Castellane, c'est la cité où a grandi Zinedine Zidane. Un mois d'enquête sur place et une enquête sur les nouveaux caïds de Marseille.
Des nouveaux caïds qui se partagent la ville en coupe réglée. 8 clans avec des pseudonymes, des surnoms très sympathiques. Le sénateur, les gitans, souris, les tirs.
Vous pliez
le
pliez.
Marcassin qu'on appelle aussi la baleine.
Et vous pliez justement les photos de ces deux nouveaux caïds, la baleine et souris. Cette cité de la Castellane, c'est 1250 habitations à loyer modéré. C'est l'une des zones les plus violentes de France. Vous racontez comment ça se passe?
On raconte comment ça se passe et surtout qu'autrefois, alors il y a toujours eu des points de deal, mais là, les habitants sont pris en otage. Il y a des checkpoints, des barrages, un vocabulaire.
C'est vraiment
incroyable.
Des zones de non-droit, on va dire, en tout cas des zones à part.
Ah ben, ils fabriquent des chicanes, on peut pas rentrer. Ils mettent des clous sur des bouts de bois, ils barrent la route. Il faut montrer ses papiers pour pouvoir rentrer. Ça devient fou. On a assisté tout l'été à des règlements de compte d'une violence inouïe. La police en recense 20, mais ils disent qu'il y en avait plutôt 40. Ouais. On retrouve des gens brûlés vifs dans la voiture, parfois des gamins.
Caroline, on arrive à chiffrer finalement ce que représente ce deal?
On arrive à chiffrer à 100 000 euros le chiffre d'affaires du deal.
Par jour?
Deux, avec 2000 clients jour, 100 000 euros de chiffre d'affaires.
C'est, énorme.
C'est énorme. Et d'ailleurs, le vieux système qui consiste à se dire on va s'attacher les caillis dans les forums, entrer dans, dans les mairies, ce qui se pratique aussi d'ailleurs en banlieue parisienne, ne fonctionne pas. Parce que les types disent on n'abandonne pas tout pour 1000 balles par mois, vous êtes dingue. Il faut savoir qu'un chouf, c'est-à-dire qu'un jeune homme recruté par les réseaux sociaux, parce que ça marche comme ça maintenant, qui garde le point de deal, prend 100 euros par jour.
Et justement, vous racontez également que les mômes qui, eux, finalement, n'ont pas peur des flics, des policiers, mais ils sont terrifiés par leurs supérieurs, finalement.
Oui, aujourd'hui, pour devenir un caïd à Marseille, il faut commettre des exactions. Il y a des scènes de torture. Celui qui a mal gardé le point de deal, qui n'a pas signalé... ils s'entretuent vraiment, il y a des méthodes de torture, il y a des punitions, ils appellent ça des réglos. On a dans les photos qu'on montre quelqu'un qui est sorti de chez lui, emmené de force, monté dans une voiture et qui a été brûlé vif dans sa voiture.
Enquête édifiante signée Émilie Blacher à lire dans le match de cette semaine. Merci à vous Caroline Mangèze.
Merci Thierry.
L'interview dans un instant à suivre, on va parler de la troisième nuit des châteaux. C'est ce soir et c'est partout en France. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview de 7h moins le quart passé de ce samedi matin, on vous offre un peu de magie ce matin. C'est la troisième édition et c'est ce soir la nuit des châteaux. Bonjour Romain Delhomme.
Bonjour.
C'est vous l'organisateur, hein. On va parler de votre combat avec les D'Artagnan dans un instant. Mais d'abord donc ce soir, des châteaux vont ouvrir leurs portes en nocturne donc. Au grand public, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. En fait, le concept, c'est de fédérer. Nous avons fédéré plus de 200 propriétaires de monuments partout en France et puis pour la première fois dans des pays européens comme la Belgique, la Suisse et l'Espagne. L'objectif, c'est que nous tous, propriétaires de monuments historiques, nous puissions ce soir faire rêver le public de tous les âges, de toutes les générations.
C'est combien de châteaux?
Des expériences inédites.
Combien de châteaux?
Environ 200 châteaux qui ouvrent. Environ 200 châteaux qui ouvrent partout en France et donc en Europe ce soir. Et donc des styles architecturaux, des histoires différentes et bien sûr des expériences à découvrir qui sont toutes plus fabuleuses les unes que les autres.
Alors justement, quelques exemples de ces châteaux à nous conseiller. Il y aura des tas d'animations, je crois, des projections 3D, des escape games, etc. C'est ça?
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que chaque propriétaire puisse faire découvrir son château au public à travers une programmation qu'il aime et qui lui ressemble. Donc, on aura des dîners aux chandelles, des visites de caves, des spectacles de cavaliers, de feux, des feux d'artifice, des escape games, comme vous le disiez. Et l'objectif, c'est que chacun puisse trouver le château de ses rêves et l'expérience qui le séduit le plus.
Derrière cette vitrine, cette nuit des châteaux, il y a votre combat. Vous avez fondé les D'Artagnan. C'est une start-up qui tente de préserver notre patrimoine, c'est ça?
Oui, notre objectif depuis 2015 chez D'Artagnan, c'est de sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine. Oui. Et il y a plusieurs manières finalement de préserver le patrimoine. Il y a la possibilité de faire des dons réguliers sur notre plateforme d'artagnan.fr. Et il y a aussi, bien sûr, le fait de visiter. Voilà, lorsqu'on achète un billet d'entrée, lorsqu'on vit une expérience comme celle de la nuit des châteaux, eh bien, en fait, on devient, à travers l'achat de son billet, un mécène du monument. Et ça, c'est très important. Et de se dire que voilà, on espère ce soir avoir, je pense, entre 30 000 et 40 000 visiteurs.
Ah ouais.
Ce qui va représenter environ 400 000 euros injectés directement dans les monuments. Et puis ensuite, au niveau de l'économie locale, eh bien, les visiteurs de ce soir iront certainement à l'hôtel, demain au restaurant. Et donc, c'est aussi toute une économie locale qui se développe grâce à un événement comme celui-ci.
Romain Delhomme, vous êtes trentenaire. Ça vient d'où cet engagement pour les châteaux, pour le patrimoine?
C'est une passion commune que j'ai avec mon associé Bastien. Ouais. Nous, on vient du monde de la finance, on a fait une école de commerce, mais on est passionné depuis tout petit par le patrimoine, par l'histoire. Et donc, on a choisi finalement de faire de notre métier la passion que nous avons depuis que nous sommes tout petits.
Et vous avez vous-même repris des châteaux en ruine, hein, je crois?
Tout à fait. On a racheté depuis 2018 trois monuments historiques, dont deux participent à la nuit des châteaux ce soir. La Motte Chandonnier qui se trouve dans la Vienne, où on va proposer un bal masqué avec un buffet et puis un feu d'artifice à la fin. Et le château de Lébeaupinay qui se trouve dans les Deux-Sèvres, où l'ambiance sera médiévale. On va replonger nos visiteurs au Moyen-Âge avec des combats de cavaliers, des cracheurs de feu, des musiciens médiévaux et puis un petit peu de béour qui est l'art martial médiéval par excellence. On finira aussi à Lébeaupinay par un feu d'artifice. Et le concept, en fait, c'est de permettre à des milliers de personnes d'acheter collectivement des monuments à l'abandon dans le but de les sauver.
Vous pensez que l'État ne joue pas son rôle, qu'elle abandonne notre patrimoine, nos châteaux?
Non, je pense pas ça. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 monuments qui sont classés monuments historiques, donc sont sous la tutelle de l'État. Et malheureusement, les budgets, on va dire, stagnent depuis une dizaine d'années. Environ 300 millions d'euros dédiés au patrimoine, mais les besoins augmentent. Plus on attend pour faire des travaux, plus ça coûte cher. Et donc, du coup, il faut des solutions alternative, ludique, grand public, comme celle que nous proposons chez Artena. Donc en fait, on vient compléter finalement l'augmentation des besoins qu'ont les milliers de propriétaires de monuments historiques partout en France.
Et il y a eu la pandémie, bien sûr, avec beaucoup de visites qui ont été annulées. Ça a été un coup dur cette dernière année, on va dire.
Ça a été plus que dur, ça a été terrible. Nous-mêmes qui avons l'impatience de recevoir à nouveau nos visiteurs, voilà, on a dû attendre cette année encore quelques mois avant d'ouvrir. C'était fin mai ou début juin. Et donc forcément, quand on est gestionnaire d'un monument historique et qu'on en fait une activité professionnelle et économique, le fait d'être coupé finalement de sa première source de revenus, plus du bonheur que nous avons à faire découvrir nos châteaux aux visiteurs, ça a été très compliqué, avec un chiffre d'affaires qui était forcément égal à zéro, puisque quand on est fermé, on ne peut pas gagner notre vie. Et ça a été un grand bonheur de voir que cet été, tous les monuments, qu'ils soient grands ou petits, ont pu réouvrir leurs portes et surtout accueillir énormément de personnes. Voilà, nous, on a fait une fréquentation record dans nos monuments par rapport aux années précédentes. Donc, on sent que les gens ont envie de sortir, ont envie de bouger et ont envie surtout de découvrir des lieux insolites et sans en être très contents.
Alors, Romain Delhomme, soyons très concrets ce soir. Donnez-nous un peu des endroits où il faut aller. C'est partout en France, cette troisième nuit des châteaux. Il y a des endroits un peu magiques, des soirées un peu particulières ce soir?
Alors oui, forcément, il y a plein de choses à découvrir. Si je vous donne des exemples de châteaux qui n'ouvrent par exemple jamais leurs portes, et ça pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense au château de la Jumelière dans le Maine-et-Loire, qui va proposer une visite guidée à la lumière de lanterne, plus une dégustation de produits du terroir angevin dans le monument, et c'est un château qui n'ouvre normalement jamais ses portes. Il y a le château de Bagatelle à Paris qui est en travaux depuis pas mal d'années, qui n'ouvre aussi quasiment jamais ses portes et qui a une histoire assez extraordinaire puisque le château a été construit en moins de 70 jours. On a vu passer des personnages comme Napoléon et qui va proposer une visite également à la bougie. Je vous parlais aussi du château de l'Épinay, donc qui a proposé un spectacle médiéval avec des chevaux et des combats. On peut aussi penser à des châteaux en Auvergne-Rhône-Alpes, comme le château féodal d'Hérisson, où il y aura une visite des tours, de l'escalier, de la glacière, qui sont normalement jamais accessibles au public.
Plein de chouettes moments à partager, on l'entend, des moments à partager en famille, c'est en ce début des vacances de la Toussaint, c'est vraiment bien. Une adresse pour se renseigner, pour les lieux, les prix, les réservations?
Alors c'est très simple, c'est sur le site nuitdeschâteaux.com. Et j'invite vraiment les auditeurs à réserver, puisqu'il y a quasiment la moitié des expériences qui sont complètes déjà. Et puis avec la demande de passe sanitaire qui reste obligatoire, c'est important de réserver pour que les propriétaires puissent s'organiser d'ici
Bien
ce
sûr.
Soir et vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc nuitdeschâteaux.com, c'est très facile, vous avez toute la programmation, la carte de France et d'européenne qui vous indique où vous pouvez vous rendre. Et voilà.
Une troisième nuit des châteaux ce soir partout en France. On en parlait avec celui qui était l'initiative de cette belle idée, Romain Delhomme. Merci à vous, belle soirée donc.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, à 7h, vous retrouverez Isabelle Moreau. Mais tout de suite, Louane, c'est pour Julie, tiens. Pour Julie, pour Flavienne, qui nous écoute sous la couette. Pour Renaud également, qui sur Twitter nous dit qu'il part au travail. Bon début de journée à tous.